Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11. On est arrivé au chapitre 11 dans notre méditation. Et on va lire les premiers versets, premiers versets. Luc, chapitre 11, versets 1 à 13. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? L'un des thèmes récurrents de l'Évangile de Luc, c'est celui de la prière. C'est en conformité avec cette présentation de Jésus-Christ comme le Fils de l'homme, l'homme parfait. Et l'homme parfait vit dans la dépendance et dans la communion avec son Père, avec son Dieu. Ainsi, Jésus avait l'habitude de prier régulièrement, et en particulier dans tous les moments importants de sa vie, comme lors de son baptême, on le trouve en train de prier, ou encore lorsqu'il choisit les 12 apôtres. Il priait souvent seul, mais on le trouve aussi en train de prier avec ses plus proches disciples comme Pierre, Jacques et Jean sur la montagne où il fut transfiguré. Plus tard, il priera pour Simon Pierre en le mettant en garde avant que celui-ci ne le renie. Il s'adressera à son père alors qu'il est dans un tourment indescriptible juste avant d'être livré aux autorités religieuses. Il priera encore, il priera même sur la croix, pendu au bois. Toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ était remplie de cette pensée, de la prière, d'être vécu, de vivre en communion avec son Dieu. Ici, dans ce chapitre 11, une grande partie du chapitre 11 est consacrée à l'enseignement sur la prière. La demande est venue d'un des disciples après avoir vu Jésus prier, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Les rabbins composaient souvent des prières pour que leurs disciples les récitent. Ils devaient, eux, les disciples du Seigneur Jésus, avoir l'impression que leur façon de s'adresser à Dieu n'était qu'un rituel répétitif et totalement creux. C'est pourquoi ils désirent connaître le secret de cette intimité entre Jésus-Christ et son Père Céleste. Beaucoup de gens récitent des prières, souvent toutes faites, comme une litanie. Ils mettent beaucoup d'importance sur le lieu où on va prier, ou alors sur l'attitude, sur les genoux, les mains levées, ou devant un mur, en train de faire des genoux flexions, ou je ne sais quoi. Ici, Jésus priait un jour, on ne sait pas lequel, dans un certain lieu, on ne sait pas lequel. Ce qui importe ici, c'est comment Jésus priait. Les catholiques ont le rosaire, les musulmans leur prière rituelle, les juifs également, les bouddhistes encore. Mais remarquez qu'ici, la question n'est pas « enseigne-nous une prière », mais « enseigne-nous à prier ». Dans le passage parallèle en Matthieu chapitre 6, verset 7, juste avant de donner cette instruction que l'on a appelée le Notre Père, Jésus dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Ce matin, je voudrais qu'on regarde l'enseignement de Jésus-Christ sur la prière, et on va voir dans un premier temps la structure par excellence, on verra ensuite l'attitude par excellence, et enfin la réponse par excellence. Voyons la structure par excellence, versets 2 à 4 de notre passage. Cette prière est un modèle en fait. Ce n'est pas un élément de liturgie que l'on doit réciter. D'ailleurs, entre Matthieu et Luc, on trouve quelques différences parce que l'enseignement a été donné à des moments différents. Mais la structure de la prière reste identique. Et il est intéressant de connaître le modèle par cœur, et peut-être vous le connaissez, le modèle par cœur, cette prière par cœur. C'est intéressant de le connaître par cœur pour pouvoir suivre ce modèle ou cette structure de prière dans notre intercession courante. Je relève brièvement quelques caractéristiques tout d'abord. Cette prière, elle est brève. Il y a juste deux versets, versets 2 à 4. Cette prière est brève, elle est simple et puis elle est directe. Des six sujets qui sont abordés, trois sont orientés vers Dieu et trois sont orientés vers les besoins humains. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. L'évangile de Matthieu ajoute que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis, ça, ce sont les orientés vers Dieu. Et puis, orientés vers les besoins humains, il dit donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Troisième chose. Notez en premier lieu que Dieu nous invite à nous approcher de lui comme de notre Père céleste. Quand vous priez, dites « Père ». Ça, c'est une révolution dans la pensée de l'époque. Appeler Dieu son Père. Les protestants ont été appelés au moment de la réforme les tutoyeurs de Dieu. J'aime ça. On tutoie Dieu, nous. Pourquoi ? Parce qu'on a une intimité avec Dieu. Ça choquait l'environnement catholique à l'époque. Mais les tutoyeurs de Dieu le faisaient précisément à cause de l'intimité qu'ils avaient avec leur Créateur par leur Sauveur Jésus-Christ. Les païens craignent leur Dieu. Parce que leurs dieux sont durs à satisfaire. Il faut toujours plus. Ils conservent toujours une distance avec leur sujet. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu qui s'est abaissé, qui s'est approché lui-même de sa créature. Il est venu pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est un Dieu plein de compassion et de miséricorde. Il est aimant, plein de bonté et de grâce, de douceur, d'humilité. Et c'est pour ça qu'il nous invite à nous approcher de lui, à l'appeler Père. Et ça, ça fait de lui le seul vrai Dieu. Son nom est saint. Nul ne lui est comparable. Il n'y a personne comme lui. Il est le créateur de l'univers. Il est l'omniscient. Il est l'omnipotent, l'omniprésent, l'infiniment sage et tout-puissant. Et si vous ne connaissez pas Dieu à la fois comme votre Père et comme ce Dieu si grand et si puissant, alors vous ne prierez jamais comme il convient. Notre prière dépend de notre compréhension de qui est Dieu. Un jour, un homme est venu devant Jésus en disant « Mais si tu peux quelque chose, Mais si tu peux quelque chose, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux. » C'est comme s'il disait, « Mais tu sais à qui tu parles ? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si je peux. » Et il répond, « Tout est possible à celui qui croit. » Et cet homme, saisi par cette réponse, réalisant que certainement c'est le Seigneur, il dit, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité, parce qu'il réalise qu'il n'a pas une connaissance complète, suffisante, totale de son Dieu. » Le prier, c'est reconnaître ce qu'il est et vouloir que son nom soit reconnu, que sa domination s'étende sur toute chose, que sa volonté soit faite. C'est cela, prier. On devrait avoir cette pensée-là dans nos cœurs quand on s'adresse au Seigneur. Que son nom soit reconnu par le monde entier. Que son règne, sa domination s'étende d'âge en âge et sur nos propres vies et sur nos propres cœurs. Sur nos familles, sur notre Église. Et puis que sa volonté, elle soit faite. Les versets 3 et 4 portent sur les besoins de l'homme. Les besoins matériels, besoins relationnels avec Dieu, puis avec nos semblables, et puis nos besoins spirituels. On dépend de lui pour notre nourriture. Il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et là, ça montre combien l'homme, il dépend de son Créateur. Nous, on reçoit notre salaire tous les mois. Vers le 25 du mois, on pourrait dire, « Seigneur, donne-moi le... » Mais ici, la pensée, c'est « Donne-moi chaque jour. » Ça veut dire que chaque jour, ma vie dépend du Seigneur. Chaque jour. Et c'est, si on ne réalise pas cela, alors notre communion se distend avec le Seigneur. Mais parce que chaque jour, on a besoin du Seigneur dans nos besoins matériels. On dépend de lui pour notre nourriture, pour notre toit, pour notre santé. Et cette dépendance est salutaire pour nous garder en communion avec lui. Et puis, on a besoin de son pardon. Ça, c'est notre relation verticale. Afin, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est aussi qu'on rétablisse la communion avec nos semblables. On a besoin de cela. Pour cela, on a besoin du sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Et puis, nous avons besoin d'être gardés du péché. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. C'est-à-dire qu'on doit avoir conscience de notre fragilité, de notre faiblesse, de notre propension au péché. Et quand on a cette conscience d'avoir cette tendance naturelle au péché, on va dire, « Seigneur, garde-moi, préserve-moi, tu sais que naturellement je vais encore tomber. » Mais ne m'induis pas en tentation. J'ai remarqué que dans nos réunions de prière, on prie souvent « Pardonne mes péchés ». On prie souvent « Donne-moi la nourriture dont j'ai besoin, l'appartement dont j'ai besoin, le travail dont j'ai besoin ». Mais on prie assez rarement cette prière. Garde-moi de la tentation. Garde-moi de céder à la tentation. Pourtant, je crois que la lutte commence là. La lutte contre le péché commence là. Et donc, quand on va prier, quand le Seigneur donne un enseignement sur la prière, il voudrait qu'on garde en mémoire, en tête, cette structure de la prière. Et garder cela en tête pour tout le reste de ce message. Si on a cette structure dans la prière, on prie véritablement. D'accord ? Et maintenant, Jésus va essayer d'ajouter quelque chose dans son instruction, c'est l'attitude qui convient. Dans les versets 5 à 6 à 10, il raconte une histoire. On vient de dire que notre prière dépend de notre compréhension de la nature de Dieu, d'accord ? Dieu sait toute chose, ok ? Amen. Il sait toute chose. Bon, pourquoi lui demander alors ? Pourquoi lui demander ? Si Dieu sait toute chose, pourquoi lui demander ? Et l'introduction à cet enseignement dans l'évangile de Matthieu rapporte cette même parole. Il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant de le lui demander. » Et on est vraiment ici, voyez la chose ? Il sait déjà tout. Et on doit lui demander. Vous savez, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Il a tout déterminé d'avance. Il dit, écoutez ça, Ésaïe 14, verset 24. L'Éternel des armées l'a juré. Là, c'est sérieux, là, ça ne va pas bouger normalement. Hein, en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Dieu a tout déterminé d'avance. Qu'est-ce que nous pouvons y changer ? Savons-nous mieux que Dieu ? Non, certainement pas. Alors pourquoi prier ? J'aimerais essayer de répondre à cela avec un passage en Néhémie. Si vous voulez bien le prendre avec moi, Néhémie chapitre 1. Néhémie, c'est cet homme, un juif en déportation, il était échanson du roi Artaxerxès, le roi de Perse. Et au début de son livre, il y a de ses frères qui reviennent de Jérusalem à Suse et qui lui expliquent la situation catastrophique dans laquelle se trouve la ville de Jérusalem. Normalement, elle aurait dû être rebâtie, ils auraient dû commencer à rebâtir. Et au verset 3, ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Voilà l'état de la ville, voilà l'état du peuple, l'opprobre, la ruine totale. Verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Imaginez la chose. C'est Dieu qui les a envoyés en déportation. Est-ce que Dieu ne sait pas la situation ? Il la connaît. C'est lui qui l'a voulu. Même, c'est lui qui a fait revenir une partie du peuple à Jérusalem déjà. Alors, pourquoi est-ce qu'il prie ? Pourquoi est-ce qu'il ne connaît pas bien son Dieu ? Est-ce qu'il n'a pas eu l'enseignement qu'on vient de voir juste avant ? Si, regardez, verset 5, il dit « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Il a vraiment une excellente théologie, une excellente compréhension de qui est Dieu. Et pourtant, il vient de jeûner et passer plusieurs jours dans les larmes, dans la prière, remettant la situation devant son Dieu. Et puis, regardez maintenant comment il s'adresse à Dieu, verset 6. J'aime ça. « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment. » Jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Remarquez la similitude avec l'enseignement de Jésus. Pardonne-nous nos offenses. Il prie avec hardiesse. Est-ce que vous priez comme cela, les gens ? Écoute-moi et tends l'oreille à ma prière. ne t'en va pas, reste ici, je vais te parler. J'aime cette manière hardie. Écoute, regarde. Dans les psaumes, j'ai relevé plusieurs passages où David prie de la même manière. Regardez ce qu'il dit. Psaume 17, verset 1. Éternel, écoute. La droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Faite avec des lèvres sans tromperie. Psaume 27, verset 7. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Et exauce-moi. Franchement, moi, j'ai l'impression de ne pas prier beaucoup comme ça. Il continue, regardez, chapitre 55, psaume 55, versets 2 et 3. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière. Et j'aime ça. Et ne te dérobe pas à mes supplications. Inutile de t'en aller. Reste ici, j'ai pas fini. Est-ce que c'est bien sérieux de prier comme ça? Écoute-moi et réponds-moi. Psaume 102, versets 2 et 3. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face. Au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille quand je crie et hâte-toi de me secourir. De m'exaucer. Psaume 143, verset 1. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Est-ce que David, il n'avait pas cette même compréhension de Dieu? Oh, si. Il a une excellente compréhension de qui est Dieu. Et il sait comment s'approcher de son Dieu. C'est vraiment une âme de prière. Quand on lit les psaumes, on est obligé d'en convenir. Pourquoi prie-t-il avec une telle hardiesse? La réponse, c'est la suivante. Il prie avec hardiesse parce que Dieu a déterminé la fin de toute chose, mais aussi les moyens d'accomplir son dessein. Et nous sommes un des moyens par lesquels Dieu accomplit ses desseins. Et la prière, c'est un des moyens par lesquels Dieu accomplit son dessein. Et Dieu, Satan, il a prédestiné les choses, mais il a aussi prédestiné le moyen. C'est valable pour tout. Dieu a prédestiné les hommes pour le salut. Mais il a aussi prédestiné le moyen, et le moyen, c'est la foi et la repentance. Et personne n'est sauvé sans croire au Seigneur Jésus-Christ et sans se repentir de ses péchés. C'est-à-dire que la fin et les moyens ont été déterminés par Dieu, choisis par Dieu. Regardez un exemple qui est très parlant encore. C'est en Daniel, chapitre 9, c'est sa prière. Daniel, il est un peu comme Néhémie, avant Néhémie. Il est déporté à Babylone auprès des rois païens. Et puis il dit au chapitre 9, verset 1, « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de leur roi des Mèdes et des Perses, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. » Il est en train de lire, et dans la lecture du prophète Jérémie, il voit ce que Dieu a annoncé. Dieu a annoncé, ça suffit, maintenant vous partez en déportation à Babylone pour 70 ans. Mais après 70 ans, vous reviendrez. Daniel, il est parti. Maintenant, ça fait 70 ans qu'ils sont à Babylone. Il voit ça. Il dit, mais ça fait 70 ans. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Verset 3. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, etc. Je suis obligé de passer ce, c'est un peu long, mais rappelez-vous l'écho que ça fait à l'enseignement de Jésus sur la prière. Pardonne-nous nos offenses, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Et puis regardez au verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ça fait écho à David, n'est-ce pas? Ou à Néhémie. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. Agis, ne tarde pas, car par amour pour toi, ô Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Waouh! C'est le Notre Père. C'est l'enseignement de Jésus sur la prière. Il prie avec une compréhension de la volonté de Dieu. Et il fait valoir les promesses de Dieu. Seigneur, tu as dit 70 ans. Tu n'as pas dit 71. Tu as dit 70. Ramène-nous maintenant. Versets 20 et 21 de notre passage. Dieu accomplit sa promesse et renvoie le peuple à Jérusalem. Voyez-vous, Dieu avait tout déterminé à l'avance, la déportation et le retour après 70 ans, mais quand Daniel comprend que c'est le moment du retour et qu'il prie, alors la chose arrive. Dieu a aussi déterminé le moyen par lequel les choses arrivent. Ici, c'est la prière de Daniel. C'est une invitation à l'hardiesse, tout en conservant en tête la structure par excellence. Ils ont prié avec hardiesse, mais comme dans le Notre Père. Pardonne-nous, délivre-nous du malin. Si je prends encore Néhémie, la suite de sa prière, Néhémie chapitre 1, verset 7, il dit « Nous t'avons offensé ». Et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors... quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme auquel il va s'adresser, c'est-à-dire son propre roi, pour qu'il puisse avoir la permission et les moyens de partir. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et son pain à lui, c'est une équipe pour partir, c'est la liberté pour pouvoir partir à Jérusalem. Il ne demande pas quelque chose de farfelu. Il demande que les promesses de Dieu soient accomplies. Et c'est cela la prière. On n'est pas en train de pleurnicher devant Dieu en disant « Allez Seigneur, change ta volonté !» Non, que ta volonté soit faite. Mais ta volonté, c'est de faire grâce, de ramener ton peuple quand il reviendra à toi. Nous sommes là. Ramène-nous. Revenons à présent à notre passage en Luc. Jésus raconte une petite histoire. L'histoire est simple. Un homme arrive à l'improviste en pleine nuit chez un de ses amis. « quand ils arrivent en pleine nuit, généralement les invités, on les emmène se coucher, on leur présente la chambre et hop, dodo, pour tout le monde. Là, par politesse, il lui dit « T'as pas faim? T'as mangé ?» La politesse, normalement, c'est de dire « Non, non, j'ai pas faim. » Mais là, comme c'est son ami, il lui dit « Si, oh, j'ai faim. » Et là, il dit « Mais oh, j'ai rien à manger. Je n'ai rien à manger et les magasins sont fermés. » Donc, il va frapper à la porte de son ami pour lui demander 3 pains. Alors, il lui explique la situation à travers la porte, hein, verset 5. Il dit « Ami, ami, quand vous frappez à minuit, il vaut mieux dire « Ami, souviens-toi, on est copains. Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Franchement, si ma femme me demandait d'aller chez Benjamin et Noémie, nos voisins, à minuit pour demander 3 œufs, pour faire une omelette à notre invité surprise, je dirais, vas-y toi-même. J'aime pas déranger à minuit. Même si on s'entend bien, même si c'est des bons amis, non, non. J'expliquerai à notre invité que s'il se couche rapidement, il se souviendra même plus qu'il a faim. C'est pas véritablement l'état d'urgence non plus. Bon, il n'a pas mangé le soir, mais il mangera mieux au petit déjeuner. C'est pas une jambe cassée là, c'est pas une femme qui est en train d'accoucher, non. C'est juste quelqu'un qui a un creux. Et pourtant, il se lève, il va et il demande et frappe jusqu'à ce que son ami lui réponde. Et vous savez quoi? Son ami lui répond. Son ami lui ouvre. Parce que maintenant qu'il a réveillé toute la maison, il sait qu'il ne rentrera pas chez lui sans avoir ses 3 pains. Alors, autant que ça dure le moins longtemps possible, je vais te les donner, tes pains. Et le Seigneur, ici, dans son histoire, il dit, verset 7, « Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne suis plus me lever pour te donner les pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Vous savez comment vous levez? Vous levez? Vous levez, oui. Bon, tu veux 3 pains? Voilà, voilà, tu prends 3 pains. Tu veux de l'huile? Voilà, de l'huile. Tu veux de la tapenade? Voilà. Tu veux du vin? Tu veux du lait? Voilà, tu prends tout. Et maintenant, tu t'en vas. Et on n'est plus amis. Je ne suis ami avec personne la nuit. D'accord? Je veux bien être ton ami le jour, mais pas la nuit. C'est comme ça qu'on répond. C'est pas parce que c'est mon ami, c'est à cause de son importunité. Une opportunité, c'est quelque chose, voilà, ça se présente bien. C'est une opportunité. Une importunité, c'est quand ça se présente mal. C'est minuit, et il y va quand même. Et Dieu dit, ici, que son ami va lui ouvrir. Et regardez ça maintenant. Verset 9. Et moi, Jésus, moi le Seigneur, moi qui est en train de vous enseigner sur la prière, et moi je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est une invitation du Seigneur Jésus à la hardiesse, à l'importunité. Dieu aime cette attitude importune, que j'appelle l'attitude par excellence, parce qu'elle glorifie son nom, parce qu'elle glorifie celui qui peut toutes choses et qui pourvoit à tous les besoins de tous ses enfants. C'est comme s'il disait, si vous avez en tête les premiers versets, si vous avez en tête la structure par excellence, alors n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander et à plaider encore et à frapper jusqu'à ce que je vous ouvre. Si un ami répond à notre hardiesse, que fera alors notre Père céleste qui nous aime ? La troisième chose, partie de cet enseignement sur du Seigneur Jésus, c'est la réponse par excellence. Ce qu'on voit dans les versets 11 à 13, il reprend avec une autre illustration. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Et le verset 13 est extrêmement riche. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Ici, dit, les hommes sont totalement dépravés, pour prendre l'expression de Calvin. Ils sont méchants, méchants comme vous l'êtes. Il ne dit pas, ce que vous faites, c'est méchant. Non, il dit, vous êtes méchants. Et pourtant, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et là, le Seigneur appuie son enseignement sur un principe. Il dit, le principe, même chez des hommes méchants, les pères donnent de bonnes choses à leurs enfants. Les pères font du bien à leurs enfants. Les pères recherchent naturellement le bien de leurs enfants. Même quand ils sont dépravés, qu'ils sont méchants, etc. Et c'est probablement l'image du Créateur imprimée dans leur cœur. C'est, ils font du bien à leurs enfants, même si leurs enfants ne les comprennent pas toujours. Mais le principe est établi, les pères recherchent le bien de leurs enfants. Il ne se moquera pas de lui en lui donnant une pierre lorsqu'il lui demande un pain. Je ne vois pas un père se moquer de son enfant de la sorte. Non, il lui donnera un pain s'il a besoin d'un pain. Il ne lui donnera pas quelque chose qui puisse empoisonner sa vie ou qui pourrait même le blesser ou le tuer. Un serpent s'il demande un poisson ou un scorpion s'il demande un œuf. Non, les pères prennent soin de leurs enfants. En Matthieu, Jésus termine en disant, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? » C'est une logique tellement forte. Vous êtes méchants et vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Pourtant, je suis méchant et je m'efforce de donner de bonnes choses à mes enfants. Mais alors, à plus forte raison, Dieu, qui est bon, chez lequel il n'y a pas de péché, qui est plein de compassion, de miséricorde, de richesse, de bonté, de grâce, de faveur, il va nous donner de bonnes choses. Dieu nous donnera de bonnes choses. Nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est qu'en réponse à nos prières, Dieu nous donnera toujours de bonnes choses. Dieu nous donnera toujours des bonnes choses en réponse à nos prières. Mais ici, Luc diffère un peu de Matthieu en disant, Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? C'est pas un verset facile, ça. Mais il ne dit pas qu'il nous faut demander l'Esprit Saint nécessairement. Mais il dit que quelle que soit la chose que nous demandions, la réponse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il ne dit pas nécessairement qu'on demande le Saint-Esprit, mais quelle que soit la demande que l'on dit, que l'on formule à Dieu, sa réponse à lui, c'est le Saint-Esprit. Je m'explique. Dans le cadre de la prière par excellence, avec l'attitude par excellence, vous demandez la consolation à Dieu dans l'épreuve. Et Dieu vous donne le consolateur. Jean chapitre 14, verset 26. Vous demandez de l'aide dans la prière. Et il vous donne le Saint-Esprit intercesseur. Romains chapitre 8, verset 6. Vous demandez de comprendre. Il vous donne l'Esprit de vérité. Jean, chapitre 16, verset 13. Vous demandez la puissance, la force, le courage. Il vous donne l'Esprit de puissance. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Actes, chapitre 1, verset 8. Vous demandez la sagesse. Et il vous donne l'Esprit de sagesse. Éphésiens, chapitre 1, verset 17. Vous demandez des conseils. Il vous donne le guide. Vous demandez la sainteté. Il vous donne l'Esprit de sainteté. Romains 1, 4. Vous demandez l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, et il vous donne l'Esprit dont le fruit est répandu dans notre vie. Romains chapitre 5, verset 5, Galates chapitre 5, verset 22. Vous voyez cela ? La réponse par excellence. Je ne sais pas si l'image est très bonne, mais c'est comme si vous allez à la banque et vous demandez de l'argent, et on vous donne la banque. Voyez la générosité de Dieu, sa faveur. Quand on a besoin, Dieu dit, c'est par la bouche de l'apôtre Paul, il dit, en réponse aux faveurs des Philippiens, il dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse. » Il ne dit pas Dieu répondra ou prendra soin de vous et il vous donnera un peu de ses richesses. Il dit selon ses richesses. Vous demandez le don, il vous donne le donateur. Vous demandez l'effet, il vous donne la cause. Vous demandez pour le produit, il vous donne la source. Il vous donne non de ses richesses, mais selon sa richesse. Vous demandez un Dieu, pour ainsi dire, comme à la banque. Vous demandez de l'argent, il vous donne la banque. C'est ça. Je termine. Le verset premier de l'instruction du Seigneur Jésus sur la prière commence par « Quand vous priez, dites « Père ». Et le dernier verset dit « Le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ». La relation qui permet de prier avec une telle hardiesse et d'attendre une réponse aussi excellente, c'est une relation de père à fils. Et si vous n'avez pas cette relation de père, de fils auprès du père, alors vous ne pouvez pas vous attendre à ces choses. Vous ne viendrez pas devant Dieu avec hardiesse et vous ne recevrez pas sa réponse par excellence. Nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, quand nous reconnaissons en Jésus-Christ le Sauveur, notre Sauveur, qui efface nos péchés en mourant sur la croix à notre place. Si vous demandez à Dieu on a besoin de salut. Dieu nous donne un sauveur. On a besoin de justice. Dieu nous donne le juste. Si vous venez à Dieu et que vous demandez pardon pour vos fautes en plaçant votre confiance en Jésus-Christ, vous savez ce qu'il vous donnera ? Le Saint-Esprit. Il vous donnera le Saint-Esprit selon la promesse qui est faite en Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, en Jésus-Christ, vous avez cru et vous avez été scellés avec du Saint-Esprit qui avait été promis. Romains chapitre 8, verset 15 et 16 dit « Vous n'avez pas reçu un esprit pour être encore esclave, de servitude pour être encore esclave. » Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Père dans l'intimité, « Papa ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez la chose ? La promesse est extraordinaire ici. Si vous venez à Dieu pour lui demander, il vous donnera son Saint-Esprit. Si vous demandez de la justice, il vous donnera son Saint-Esprit par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ici, on a vraiment la structure par excellence de la prière. On a l'attitude par excellence qui est l'hardiesse, faire valoir les promesses de Dieu, poursuivre Dieu avec ses promesses. Parce qu'il a aussi déterminé que par la prière, il accomplissait ses desseins, déterminés d'avance. Et puis enfin, sa réponse est excellente. Elle est la réponse par excellence. Il nous donne le Saint-Esprit en réponse à tous nos besoins. Alors, ne déshonorez pas Dieu en doutant de sa générosité. Allez à lui dans le milieu de votre nuit. Inutile de dire « Oh Seigneur, excuse-moi encore, c'est moi, je te dérange, oh je sais que tu es très occupé. » Celui qui prie comme ça, il connaît pas son Dieu. Vous n'allez jamais l'importuner, le déranger. Ce n'est pas seulement un ami, c'est votre Père. Il lui plaît que vous soyez là, devant sa porte. Venez. Demandez, cherchez, frappez, faites valoir ses promesses, soyez hardis dans vos prières. Dites, écoute, Père, regarde, Seigneur, exauce, parce que je te prie selon le modèle que tu nous as laissé. Avec l'attitude hardie, importune, qui glorifie ton nom. Je veux m'attendre à ta réponse par excellence. Que Dieu nous bénisse et nous encourage à prier les uns pour les autres, à prier pour tous les besoins de nos cœurs.